La prochaine fois que vous recevrez un colis ou, je sais pas, une commande de repas, prenez juste une petite seconde, regardez la boîte en carton qui traîne devant votre porte avant de la jeter au recyclage, quoi.
Ouais, on le fait tous machinalement.
C'est ça. À première vue, c'est juste un déchet, mais en fait, dans la réalité économique, c'est l'incarnation d'un marché qui pèse des milliards de dirhams. Et c'est exactement le sujet de notre exploration d'aujourd'hui.
Tout à fait.
Parce qu'aujourd'hui, on est le 26 août 2026 et la plateforme monprojet.ma vient tout juste de mettre en ligne un guide vraiment hyper fouillé, très détaillé, qui s'adresse directement aux jeunes entrepreneurs marocains.
Mais c'est un document fascinant pour le coup.
Vraiment. Et la thèse de ce document, elle est super audacieuse. En gros, ils expliquent que la fabrication d'emballages en carton personnalisé, ce serait actuellement l'un des raccourcis les plus viables vers l'entrepreneuriat industriel au Maroc.
Exactement. L'idée, ce n'est pas de chercher de l'or soi-même. C'est de vendre les pelles et les pioches, en fait. De fournir les outils à tous ceux qui tentent leur chance dans cette fameuse ruée vers l'or de l'e-commerce.
Ouais, on vend les boîtes, quoi. Donc, la mission de notre analyse aujourd'hui, ça va être de décortiquer cette stratégie. On va examiner les chiffres en détail et voir si cette opportunité, elle résiste vraiment à l'épreuve de la réalité du terrain.
Oui, parce qu'il faut comprendre pourquoi ce besoin, il explose maintenant. Ce qui est fascinant ici, c'est cette mutation très, très claire de l'économie marocaine. Le marché, il est saturé de nouvelles boutiques Instagram, de marques de cosmétiques artisanales.
Ah ouais, il y en a partout.
Partout. Et surtout, les fameuses dark kitchens. Vous savez, ces restaurants qui sont optimisés uniquement pour la livraison à domicile.
Sans aucune salle pour s'asseoir, ouais.
Exactement. Et en parallèle de ça, il y a la législation et puis les habitudes des consommateurs qui poussent de plus en plus fort vers la fin du plastique à usage unique.
C'est clair, donc on se rabat sur le carton.
Voilà. Et le point commun entre toutes ces entreprises, c'est qu'elles n'ont plus aucune vitrine physique. Leur seul point de contact matériel, tangible avec le client final, c'est ce fameux bout de carton. L'emballage, il est passé d'une simple fonction de protection pour le transport.
À l'outil marketing numéro un, en fait.
Exactement. C'est leur devanture de magasin, littéralement.
Sauf que, moi, il y a un truc qui me chiffonne avec cette théorie. C'est la taille des acteurs qui sont déjà en place. Enfin, le Maroc possède quand même des géants industriels historiques dans l'emballage.
Oui, absolument.
On parle de mastodontes, genre Gare Papier Carton, CMCP ou encore Multisac. Donc, si le marché est si juteux que ça, la logique voudrait que ces énormes usines, elles absorbent toute la demande, non?
Sur le papier, oui.
Bah oui, comment? Un jeune entrepreneur avec son petit atelier pourrait espérer survivre face à des boîtes qui sortent, je sais pas, des millions de tonnes de carton chaque année?
Alors, c'est là qu'il faut regarder comment fonctionne l'industrie lourde. Elle obéit à des lois physiques et économiques qui sont très rigides en fait. Les usines dont vous parlez, elles sont structurées pour des volumes massifs.
D'accord.
Arrêter une ligne de production gigantesque pour changer les matrices de découpe, paramétrer les cylindres d'impression pour un nouveau client, ça leur coûte des milliers de dirhams juste en temps d'immobilisation.
Ah oui, la machine tourne à vide pendant qu'il la règle.
C'est ça, donc pour amortir ce coût de démarrage, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent des commandes minimales. Un petit créateur de bougies qui contacte ses usines, il va s'entendre dire qu'il doit commander entre, disons, 1 000 et 5 000 unités d'un coup.
Waouh, 5 000 d'un coup pour démarrer.
Oui, et avec des délais de livraison qui vont de 2 à 4 semaines.
Donc en fait, c'est un peu l'équivalent de vouloir s'acheter un costume sur mesure pour un mariage et de s'entendre dire par l'usine textile « Désolé, on ne peut vous fournir qu'à partir de 5 000 costumes identiques.
C'est exactement la bonne analogie. C'est le principe du paquebot face au jet ski, quoi.
» Ouais.
Un paquebot, c'est extrêmement efficace pour traverser l'océan avec des milliers de containers. Mais c'est totalement incapable de faire un virage serré dans un petit port.
Et la faille du marché, elle est dans ce virage serré.
Voilà. Et les sources qu'on a analysées documentent très très bien cette faille. La demande actuelle, elle vient des TPE. Les très petites entreprises, elles ne peuvent absolument pas immobiliser leur trésorerie, dont 5 000 boîtes.
Surtout qu'il faut les stocker, ces 5 000 boîtes.
Mais bien sûr, elles n'ont pas l'espace pour entreposer 3 palettes de carton dans leur salon ou dans l'arrière-boutique de leur cuisine. C'est pas possible.
Donc le nouvel acteur agile, lui, va se positionner précisément sur ce que l'industrie lourde refuse de faire, les micro-séries.
Exactement. On parle de petits lots. 50 à 100 unités, livrées hyper rapidement, disons en 3 à 7 jours, et avec, en prime, un service d'accompagnement sur le design.
Mais même les imprimeries classiques ne font pas ça.
Non, même les Kans imprimeries classiques ne veulent pas de ce segment. Elles exigent souvent un minimum de 500 unités et avec une personnalisation vraiment rudimentaire.
Ok, je vois. Mais du coup, ça soulève directement la question de l'emplacement. Parce que le guide mentionne l'axe Casablanca-Rabat, bien sûr, Tanger, Marrakech et Fès.
Ce qui semble logique au premier abord.
Bah oui, c'est logique, c'est là qu'on a la densité commerciale. Mais si l'avantage concurrentiel, c'est la livraison en 3 jours et la proximité avec les petites boutiques, s'installer à Casablanca, pour moi, ça ressemble à un piège, non? Les loyers industriels y sont complètement hors de prix et le marché doit déjà grouiller de revendeurs. Est-ce que des villes moyennes, genre Kénitra ou Agadir, ne seraient pas des cibles plus stratégiques?
Alors là, vous touchez un point clé et les données du guide pointent effectivement vers ces villes moyennes comme des zones de très forte traction. Prenez la dynamique d'Agadir, par exemple. C'est très révélateur.
Ouais, qu'est-ce qui s'y passe?
La ville connaît une croissance énorme des initiatives e-commerce, mais elle souffre d'un manque cruel de fournisseurs locaux spécialisés. Et il faut se rappeler un truc tout bête, hein. Le carton, c'est un matériau hyper volumineux.
C'est plein de vide.
Transporter des boîtes vides depuis Casablanca vers Agadir, c'est littéralement payer pour transporter de l'air.
C'est clair.
Donc, l'entrepreneur qui implante son atelier directement à Agadir, il élimine totalement ses coûts de fret logistiques. Et par la même occasion, il s'assure un quasi-monopole local sur les livraisons express en petite quantité.
C'est super malin. Sur le papier, je l'avoue, le modèle économique de proximité est hyper séduisant. Mais d'accord, décortiquons tout ça au niveau des chiffres.
Allons-y.
Parce que c'est là que le guide de mon projet.ma me perd un tout petit peu, pour être honnête. Ils avancent un scénario qu'ils appellent « starter », avec un ticket d'entrée estimé à 48 000 dirhams. Enfin, soyons sérieux un instant, 48 000 dirhams, c'est le prix d'une petite voiture citadine d'occasion, et là on parle de lancer une activité industrielle.
C'est sûr que ça paraît peu.
Bah oui, avec un budget pareil, j'imagine difficilement autre chose qu'un un atelier de bricolage du dimanche dans un garage. Comment on peut structurer une véritable ligne de production avec un capital aussi restreint?
Alors, c'est parce qu'il faut redimensionner ce terme de ligne de production. On n'est pas chez Ford. À l'échelle de la micro-manufacture, pour 48 000 dirhams, vous n'achetez pas une chaîne automatisée de 50 mètres de long. Vous achetez de la machinerie semi-manuelle, très robuste et hyper ciblée.
Ok, donc ça ressemble à quoi concrètement?
Le poste principal, c'est la machine de découpe. Dans le guide, elle est budgétisée à 15 000 dirhams. Il s'agit généralement d'une platine de découpe, manuelle ou semi-automatique.
Et ça fonctionne comment?
Le principe est assez simple, en fait. C'est une lourde mâchoire métallique qui vient presser une forme de découpe. C'est un morceau de bois avec des lames en acier intégré qui vient presser ça contre la feuille de carton pour la plier et la couper.
D'accord, un gros emporte-pièce en gros.
C'est ça. Ensuite, vous avez l'outil de valorisation qui est la presse à chaud, estimée à 5000 dirhams. C'est ça qui permet d'appliquer les dorures ou les marquages en relief sur la boîte.
Ok, mais attendez. Même si les machines ne coûtent que, allez, 20 000 dirhams au total, qu'en est-il de la courbe d'apprentissage et de la maintenance? Parce que si j'achète une machine d'entrée de gamme à 15 000 dirhams, le risque, c'est de passer mes 3 premiers mois à ruiner des dizaines de kilos de carton pour essayer de calibrer la pression, non? Ou pire, de voir la machine tomber en rade à la première surchauffe. Le budget de 48 000 ne semble pas du tout inclure la casse inévitable du débutant.
Alors oui, la casse matérielle au démarrage, c'est une réalité incontournable dans tout processus industriel. Mais la technologie de ces platines de découpe, elle est hyper rudimentaire. C'est purement mécanique, ce qui limite considérablement les pannes électroniques complexes.
Il n'y a pas de carte mère qui va griller, quoi.
Voilà. Et l'enveloppe de 48 000 dirhams, elle inclut bien 8 000 dirhams prévus pour le stock initial de matières premières, justement pour absorber cette fameuse phase de test et de raté.
Ah ouais, ok. Et le reste de l'argent?
Les 20 000 dirhams restants, ils couvrent l'aménagement d'un petit local, comptant environ 6 000 dirhams. Le petit outillage, et puis un fond de roulement minimal pour démarrer. Et ce dispositif très frugal, il permet quand même à une personne seule de sortir entre 1 500 et 2 500 boîtes par mois.
Ok. Admettons que la production suive avec ça. Si je veux dépasser ce stade d'artisanat individuel, j'ai vu que le guide propose aussi un scénario avancé à 92 000 dirhams.
Oui.
Là, on double presque la mise initiale. Qu'est-ce que ce capital supplémentaire apporte concrètement de plus?
Le vrai saut qualitatif dans le scénario avancé, il se situe au niveau de l'impression. On intègre une imprimante numérique spécialisée pour le carton ou un équipement de sérigraphie. Ça vaut environ 18 000 dirhams.
D'accord.
et la machine de découpe semi-automatique passe à une gamme bien supérieure, estimée autour de 30 000 dirhams. Avec cet équipement-là, votre capacité de production, elle grimpe entre 5 000 et 8 000 unités par mois.
Ah oui, c'est plus du tout la même échelle.
Et surtout, l'imprimante vous permet d'internaliser l'application des motifs et des logos complexes en quadrichromie, ce qui, visuellement, augmente drastiquement la valeur perçue de la boîte finie.
Et on sait très bien que la valeur perçue dicte le prix de vente.
Absolument.
D'ailleurs, les chiffres de rentabilité annoncés sont super agressifs. Une boîte standard, ça se vendrait autour de 2 dirhams.
Oui, pour le basique.
Mais un coffret premium en dorure, de belles couleurs et tout, ça peut monter jusqu'à 25 dirhams l'unité.
Exact.
Avec la maîtrise totale de la chaîne sur ces micro-séries, le guide estime la marge nette entre 35% et 45%, ce qui au final donne un retour sur investissement bouclé en...
4 à 9 mois.
C'est extrêmement rapide pour de l'industrie. C'est fou. Ce type de rendement montre vraiment à quel point la petite manufacture est devenue accessible aujourd'hui. D'ailleurs, la plateforme monprojet.ma ne s'arrête même pas au carton. J'ai vu qu'elle documente d'autres niches.
Oui, tout à fait.
Comme la fabrication de moules en silicone pour 35 000 dirhams d'investissement, ou même, encore plus petit, les cachets de cire à 5 000 dirhams. La barrière à l'entrée de l'industrie légère, elle s'est complètement effondrée.
Alors, la barrière financière s'est effondrée, oui. C'est vrai.
Mais... il y a un mais.
Oui. L'aspect pécuniaire n'est qu'une phase du problème. Posséder les machines dans son garage et avoir le savoir-faire, ça ne vous donne pas automatiquement le droit légal de démarrer la production.
Ah, on arrive à la paperasse.
Exactement. Le cadre réglementaire marocain impose une procédure stricte qui est centralisée sur la plateforme rocas.ma. Il faut bien comprendre que l'activité de fabrication d'emballage en carton ondulé n'est pas du tout considérée comme un simple commerce de détail.
Bah oui, c'est de l'industrie. Donc, une fois que les fonds sont réunis et que notre petit local est identifié, on se heurte au fameux mur bureaucratique. J'ai examiné ce processus et il y a un point critique qui m'a fait halluciner.
Je crois savoir de quoi vous allez parler.
La demande de permis d'exercer implique de passer par ce qu'on appelle l'enquête de commodo et incommodo. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Oui, c'est un passage obligé.
Pendant 15 jours, vous devez afficher un panneau sur la façade de votre futur atelier et vos futurs riverains ont le droit formel, légal, de s'opposer à votre ouverture.
C'est exactement ça.
Donc, l'entrepreneur n'a plus seulement affaire à un fonctionnaire derrière un bureau. Il doit littéralement convaincre tout son quartier de le laisser travailler.
Alors, ça peut paraître effrayant, mais cette enquête publique, elle trouve sa justification dans la nature même de l'activité. Rappelez-vous la machine dont on parlait tout à l'heure.
La platine de découpe.
Oui, une platine de découpe, même semi-automatique, ça génère un bruit mécanique répétitif et lourd. Sans une isolation phonique adéquate, ce clac-clac toutes les 10 secondes...
Ah, mon Dieu.
Voilà, ça devient vite insupportable pour le voisinage direct si l'atelier est mal isolé. Et puis, de plus, la manutention implique des camionnettes de livraison qui viennent décharger des palettes entières de matières premières.
Ce qui peut bloquer une petite ruelle résidentielle pendant des heures.
Voilà, donc l'enquête de commodo et incommodo sert à vérifier que votre local, qui doit faire réglementairement entre 30 et 60 mètres carrés, est vraiment adapté à un usage industriel léger et qu'il ne causera pas de nuisances, ni environnementales, ni sonores.
D'accord, je comprends la logique. Mais les exigences ne s'arrêtent pas là, si j'ai bien lu. Il faut aussi fournir un plan d'aménagement qui doit être validé par un architecte, obtenir un certificat de conformité ou un permis d'habiter, et signer tout un cahier des charges.
Oui.
Le guide recense 16 étapes administratives distinctes sur la plateforme rocas.ma.
C'est ça.
De la saisie des documents au calcul des taxes jusqu'à la signature finale du président de la commune. Et on parle d'un délai de 4 à 8 semaines. Franchement, avec un tel niveau de friction, la plupart des porteurs de projets doivent juste abandonner avant même d'avoir découpé leur tout premier carton, non ?
Alors oui, l'abandon est massif à cette étape précise. Mais si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, de manière assez contre-intuitive, c'est l'un des plus grands atouts stratégiques de ce secteur.
Ah bon ? Comment ça ?
Cette barrière administrative complexe, elle fonctionne comme un filtre darwinien.
Ah, je vois.
Elle élimine instantanément tous les concurrents opportunistes qui cherchent juste de l'argent facile et rapide. L'entrepreneur qui, lui, navigue avec succès à travers ces 16 étapes et qui a la patience d'attendre 2 mois...
Il se retrouve peinard.
Il se retrouve dans un environnement concurrentiel complètement assaini. La bureaucratie devient, en fait, une douve de château fort qui protège son marché.
C'est une excellente façon de voir les choses. Bon. Mettons qu'on a passé les douves. Le permis est décroché, les machines sont sous tension et le premier mois de loyer est payé.
Là, le chronomètre tourne.
Exactement. Parce que les charges fixes, qui sont estimées à environ 5000 dirhams par mois pour le scénario starter, elles ne s'arrêtent jamais. Il faut trouver des clients, et vite.
Tout à fait.
Et c'est ici que l'analyse des méthodes d'acquisition devient hyper paradoxale dans le guide. Parce que on est fondamentalement dans du B2B, du business to business.
Oui.
Donc, l'approche classique, ça impliquerait du démarchage téléphonique ennuyeux, des plaquettes commerciales glacées, des rendez-vous formels. Or, la recommandation principale du DID, c'est de concentrer l'essentiel de l'effort d'acquisition sur Instagram et TikTok.
Et ça marche?
Utiliser les codes de la consommation de masse pour vendre des fournitures industrielles, c'est dingue.
Mais la logique derrière cette stratégie, elle s'explique parfaitement par le profil de la cible. Le décideur qu'on cherche à atteindre, ce n'est pas un directeur des achats grisonnant dans un grand bureau vitré à la Défense.
Non, c'est clair.
C'est un jeune chef cuisinier de 25 ans qui lance sa Dark Kitchen, ou une créatrice de mode de 28 ans qui gère tous ses stocks de vêtements depuis son appartement.
C'est vrai. Et eux, ils sont H24 sur TikTok.
Voilà. Ces décideurs-là, ils consomment du contenu sur TikTok et Instagram en permanence pour surveiller les tendances. Donc, publier des vidéos qui montrent le processus de fabrication, le son brut de la machine de découpe.
Ah, la tendance ASMR, quoi.
Exactement. Le visuel hyper satisfaisant d'une dorure à chaud qui s'imprime lentement sur un carton noir mat. Ça génère des stimuli visuels et sonores extrêmement efficaces. Ces vidéos, postées sous des hashtags locaux, vont cibler chirurgicalement l'algorithme de ces jeunes entrepreneurs marocains.
C'est brillant. Mais je dois dire, l'approche numérique est puissante, mais la technique la plus redoutable détaillée dans nos sources aujourd'hui reste très analogique, très old school.
Ah, la méthode du cheval de Troie.
Ouais, j'adore ça. Le guide décrit cette stratégie du cheval de Troie. Plutôt que d'envoyer un email générique à une pâtisserie locale avec une grille tarifaire en tièce jointe... Que personne ne lit, exactement. L'entrepreneur fabrique physiquement de ses propres mains une petite série d'échantillons personnalisés. Il va récupérer le logo de la pâtisserie sur leur Instagram, il l'imprime sur la boîte, y ajoute une petite dorure et il va déposer la boîte finie en personne à la boutique. Face à une preuve matérielle palpable de l'amélioration de son image de marque, le taux de conversion doit être extrêmement élevé. Le commerçant tient son produit sublimé entre ses propres mains.
C'est implacable. La conversion par l'échantillon personnalisé fonctionne parfaitement. Mais il y a toujours un mais.
Oh oh.
Elle expose immédiatement le jeune atelier au danger le plus mortel du monde du B2B. La gestion des flux de trésorerie.
Ah, l'argent qui rentre en retard.
C'est le grand classique. Les créateurs d'entreprises sous-estiment systématiquement le décalage temporel entre la facturation de la commande et son encaissement réel. Les normes du marché tolèrent très souvent des délais de paiement allant de 30 à 60 jours.
Ouais, donc si l'atelier doit avancer l'achat des grosses bobines de carton brut, payer son électricité, payer son loyer, et ensuite attendre 2 mois entiers pour que la facture de fameuse la pâtisserie soit enfin réglée, bah la faillite intervient par asphyxie financière en fait, même si le carnet de commandes est plein à craquer.
C'est exactement le risque, et c'est pour cette raison que le document insiste lourdement sur une règle non négociable, l'exigence d'un acompte de 50% à la validation de chaque commande.
50% direct ?
Direct. Cet acompte, il sert à financer l'achat de la matière première spécifique au client, et surtout, il sécurise son engagement. Mais le risque financier n'est pas le seul écueil. La chaîne d'approvisionnement est tout aussi fragile. L'atelier ne doit jamais s'enfermer dans la dépendance à un fournisseur unique.
Genre le gars qui achète tout chez le même grossiste.
Voilà. Que ce soit un grossiste historique à Derbemar à Casablanca ou une plateforme d'import à Tanger, si ce fournisseur unique se retrouve en rupture de stock sur, disons, du carton du lait de type micro-cannelure...
Votre propre chaîne s'arrête.
Elle s'arrête net. Et cette vulnérabilité opérationnelle, elle s'applique aussi aux machines d'ailleurs.
C'est-à-dire ?
Bah, si votre platine de découpe tombe en panne un jeudi après-midi, juste avant de produire les emballages nécessaires aux grosses livraisons du week-end d'un de vos clients restaurateurs, les conséquences sont désastreuses.
Ah ouais ? Le restaurateur ne peut pas livrer ses repas du vendredi soir ?
Voilà. Donc, si l'atelier ne dispose pas d'un technicien de maintenance local capable d'intervenir en urgence, non seulement la commande est perdue, mais la relation de confiance est complètement détruite.
Et le client ira chercher un fournisseur plus fiable dès le lundi matin.
Exactement. Et acquérir un client, on l'a vu, ça coûte cher en temps, en effort, en échantillons gratuits. Mais le perdre, ça coûte infiniment plus cher.
Donc, pour stabiliser l'activité, il faut réussir à transformer des commandes ponctuelles en Bah, en abonnement, de fait.
Oui, et pour ça, le guide aborde la fidélisation avec une mécanique qu'on voit plutôt dans le commerce de détail classique.
La carte de fidélité B2B.
C'est ça. Proposer 15% de réduction sur la sixième commande. Ça peut sembler très basique.
Genre comme le kebab du coin.
C'est exactement le même principe, et ça modifie profondément le comportement d'achat. Le commerçant va consciemment consolider toutes ses commandes chez le même atelier pour débloquer sa remise.
Intelligent.
Ce qui garantit à notre jeune entrepreneur ce fameux revenu récurrent dont il a besoin pour couvrir tranquillement ses 5 000 dirhams de charges fixes mensuelles.
Eh ben, écoutez, en compilant les données de l'investissement initial, les marges, toutes les contraintes administratives de Rocas et les tactiques d'acquisition, on obtient vraiment une vue très, très nette de cette micro-industrie.
C'est fascinant.
C'est une intersection fascinante. On a des processus de production séculaires, la presse, la grosse mâchoire de découpe, qui sont littéralement réanimés par les besoins fulgurants du commerce numérique.
Un ticket d'entrée inférieur à 50 000 dirhams, ça permet de s'insérer dans la chaîne de valeur du e-commerce B2C. Mais à une condition, faire preuve d'une rigueur absolue sur la trésorerie et la maintenance technique.
Oui, et pour moi, l'implication la plus intéressante de toute cette analyse, elle dépasse de loin les simples marges bénéficiaires. Elle modifie notre grille de lecture de l'environnement commercial.
Comment ça? Bah, le carton qui arrive à votre domicile, il cesse d'être perçu comme un banal contenant standardisé. Quand vous le touchez, l'épaisseur du papier, la précision du pliage, la qualité du petit marquage doré, tout ça devient des indicateurs directs de la vitalité de tout un écosystème. Un écosystème de petits fabricants locaux qui opèrent discrètement dans des ateliers de 40 mètres carrés en pleine ville.
C'est une belle vision des choses. Chaque boîte est une facture acquittée par un créateur local. Le constat est solide. Toutefois, pour clôturer, je me pose une petite question sur la pérennité à long terme de ce besoin viscéral de l'expérience d'unboxing. Actuellement, on l'a vu, ces ateliers permettent au moindre vendeur d'épices ou à la plus petite boutique de savons artisanaux d'offrir un emballage complexe, digne d'une maison de luxe française.
Oui.
Mais l'ironie là-dedans, c'est que l'exceptionnel devient la norme si chaque objet de notre quotidien, de la bougie parfumée au simple smash burger, arrive dans un écrin doré et hyper sophistiqué, le cerveau humain va inévitablement s'y habituer.
C'est le risque de la banalisation.
Exactement. L'acte du déballage risque de perdre toute sa valeur émotionnelle par un simple effet de saturation. Du coup, je me dis que la vraie rupture stratégique pour les marques de demain, ce ne sera peut-être plus d'imprimer un plus beau carton, mais de trouver le moyen de le faire disparaître complètement.
C'est très vrai.
Que ce soit au profit d'expériences en réalité augmentée qui seraient activées par un simple petit code sur un emballage minimaliste, ou alors par l'utilisation de biomatériaux éphémères qui se dissolvent sous l'eau du robinet. L'emballage ultime du futur, ce sera peut-être celui qui ne laisse aucune trace. Bonne réflexion à tous sur ça, et à la prochaine pour une nouvelle plongée dans les données.